Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima. Que l'année 2022 soit une année de paix et de développement sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est le souhait de la population de cette province. Elle salue à cet effet toutes les initiatives du gouvernement, l'état des sièges, la mutualisation des forces, le programme de désarmement et de démobilisation qui, pour elle, offre une lueur d'espoir. Les fidèles catholiques de la ville de Bouta dans la province du Bazouil ont été dans la rue ce jeudi pour protester contre l'agression de leur administrateur apostolique et évêque du diocèse de Lolo, Monseigneur Jean-Bertin Nadonier. Ils demandent aux autorités de sécuriser les personnes et surtout les personnes de marque. Nous recevons enfin dans cette édition Maître Patience Kavira Sinamouli. Elle est point focal du collectif des associations féminines pour le développement CAFED en ville de Béni. Avec elle, nous parlerons du déroulement des activités des associations féminines en ville de Béni durant l'année 2021. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, la population souhaite que l'année 2022 soit une année de paix et de développement sur toute l'étendue de cette province. De nombreux habitants disent être lassés de la guerre et des conséquences qui perdurent depuis 4 ans. Ils saluent toutefois les initiatives du gouvernement, notamment l'état de siège et la mutualisation des forces et le programme de désarmement et de démobilisation qui offre une lueur d'espoir pour l'année prochaine. Isaac Remoyopi.
L'année 2021 qui s'achève a été caractérisée par l'intensification des atrocités des groupes armés dont ADF, CODECO, FPIC, dans presque toutes les entités territoriales, mais aussi la pandémie de COVID-19, affirment certains habitants. Ils déplorent les conséquences de ces fléaux, notamment les meurtres des milliers de gens, l'incendie des maisons, la paralysie des activités économiques et scolaires et les déplacements des populations estimés à environ 2 millions de déplacés en Ituri. Ils souhaitent que l'année 2022 soit meilleure grâce à toutes les initiatives du président de la République et du gouvernement de la RDC.
Nous, en tant que population de l'Ituri, nous voulons voir un grand changement de notre province, sur tous les plans sécuritaire, social, parce qu'il y a beaucoup de problèmes passés dans cette année 2021, surtout les cas d'insécurité, que ce soit une année de paix.
Selon la coordination de la société civile de l'Ituri, la population qui est fatiguée des cycles et des violences soutient toutes les actions du gouvernement pour que la paix soit effective dans cette province. Dieudonné Lossa.
Nous croyons que l'année 2022 doit être vraiment une nouvelle année, avec de nouvelles choses. Nous sommes fatigués de guerre, de voir nos frères et sœurs, nos parents dans les sites de déplacés. Nous sommes fatigués de rester dans les conditions où on ne peut pas circuler librement chez soi. Nous voulons aller faire nos champs.
Signalons que c'est depuis 2017 que l'insécurité persiste en Ituri et a plongé la population dans la misère. Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
Pendant ces temps, la quantité de chinchards que le gouvernement a importé de la Namibie, qui sera vendue au Congo central, est jusqu'à présent intacte dans la chambre froide Lédia à Matadi. C'est ce qu'a confirmé Corneille Mukini, chef de division provinciale de l'économie du Congo central, à la suite des questionnements de la population sur ce poisson et d'une rumeur faisant état de l'achat de ce chinchard par la société Socimex pour le revendre à la population aux prix habituels. Quant à la date du début de la vente et du prix, Corneille Mukini, qui a fait la ronde des sociétés d'importation et de vente des produits surgelés ce mercredi, dit attendre le mot d'ordre du ministre national de l'économie. Corneille Mukini, chef de division provinciale de l'économie au Congo central, est au micro de Nana Purech Mambou.
Les poissons du gouvernement, une quantité se trouve dans des chambres froides de Lédia. En ce moment ici, c'est hermétiquement fermé, il n'y a aucun mouvement ni de vente ni de livraison. Et puis, c'est Socimex, dont la rumeur disait que Socimex aurait acheté le chinchard du gouvernement et il est en train de vendre. Alors que c'est faux. Ils ont donné leur document d'importation et la quantité. D'ailleurs, nous avons ces documents. La rumeur est fausse. Moi, j'attends aussi les ordres, les instructions de la hiérarchie. Oui, le ministre national de l'économie. Comme on a montré à la télévision, nous attendons que l'instance supérieure, c'est-à-dire le ministère de l'économie ou le secrétariat général, puisse dire un mot pour ce qui concerne la province du Congo central.
Et puis, la fête de fin d'année, c'est pour bientôt, dans la ville de Bandundu. Plusieurs personnes ayant des moyens limités préfèrent acheter carrément des habits de friperie, dit Tombola, à la place de tenues de ville pour la fête de la Saint-Sylvestre. Par exemple, certains parents rencontrés au marché central indiquent que les tenues de ville ou de magasin coûtent trop cher que la friperie. D'autres personnes, surtout les femmes, ont choisi de faire recours à la coupe et couture pour fêter. C'est ce que nous dit Irène Mbouma dans ses reportages.
C'est l'ambiance de jeudi 30 décembre au marché central de Bandundu dans la commune de Disasi. Ici, nous avons trouvé un afflux inhabituel des gens dans le couloir des friperies. Plusieurs parents sont en train de trier les habits pour leurs enfants à l'occasion de la fête de Nouvel An. Interrogés, certains d'entre eux réagissent comme suit. J'achète pour mes enfants les habits des friperies pour la bonne fête parce que les tenues de ville coûtent trop cher.
Les moyens que nous avons ne permettent pas d'entrer dans des magasins pour chercher des habits qui coûtent cher. Autant mieux aller dans les tombola. L'essentiel pour nous est que les enfants se réjouissent quand même.
Jacqueline Mboma est couturière. Elle laisse entendre que malgré la conjoncture, elle a quand même reçu beaucoup de clientes.
Moi quand même, j'ai reçu beaucoup d'habits pour coudre. Surtout les jeunes filles, elles veulent paraître jolies pendant ces fêtes. C'est pourquoi vous voyez, je suis même débordée.
De l'autre côté, Madame Gertrude, une vendeuse, indique ce qui suit.
Une personne comme client ici. Je vends des mèches de fantaisie pour les femmes, mais même pour les enfants, j'ai des jouets, mais nous ne vendons même pas. Il n'y a pas de fête cette année.
En attendant, d'autres personnes par contre affirment avoir déjà tout préparé pour bien festoyer. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
La fin de l'année, c'est aussi le temps de faire le bilan. Le département femmes et familles de l'Église du Christ au Congo s'est dit satisfait du bilan de ses activités en 2021. À la veille de Nouvel An, sa secrétaire générale a souligné l'appui remarquable bénéficié de ses partenaires allemands et canadiens qui a abouti à la formation d'une quarantaine de femmes sur l'entrepreneuriat et l'autoprise en charge. Jeff Ngoy.
Selon la révérende Rose Biassima, secrétaire générale du département femmes et familles de l'ECC, au premier trimestre de l'année qui s'achève, 37 femmes, leaders de communautés membres de l'Église, ont réfléchi sur le renforcement du leadership féminin dans une société égalitaire à l'ère du Covid-19. Le deuxième trimestre a été consacré à la formation des formatrices sur le genre et l'entrepreneuriat. 36 femmes ont appris la transformation des fruits en jus, la pâtisserie dans sa diversité, la décoration intérieure, la fabrication des désinfectants, produits de nettoyage et phytosanitaires, la peinture et les techniques de peindre, ainsi que la manière de générer des revenus partant de ces activités. Cela a aussi permis d'occuper quelques jeunes filles et femmes victimes des violences sexuelles à Bounia. L'aménagement et la réfection des bâtiments du centre Mati, la formation sur les cultures améliorées, les micro-entreprises, l'épargne, la couture et l'installation des forages ont marqué le troisième trimestre au Nord Kivu et au Kasaï oriental.
Nous l'avons dit au sommaire, dans la province du Bazouélé, les fidèles catholiques ont organisé ce jeudi 30 décembre une marche de protestation contre l'agression de leur administrateur apostolique et évêque du diocèse de Lolo. Monseigneur Jean-Bertin Adonien a été agressé dans sa chambre par des inciviques non encore identifiés. L'incident s'est produit dans la nuit du 25 au 26 décembre dernier. Selon le président du Conseil d'apostolat catholique du Congo, Kalcessé, la journée de ce jeudi a commencé par des messes nationales, des messes matinales dans les quatre paroisses de la ville de Bouta avant de se branler dans les grandes artères de la ville. Un mémorandum a été déposé au gouvernorat de province pour exiger la sécurisation des personnes et surtout des personnalités de marque par le pouvoir public. Le président du Kalcessé Bouta, Cyprien Loukouela, a été joint au téléphone par Jacques Moukonkolé.
Simplement dévalisé, mais agressé physiquement. Et de leur façon, ils ont apporté beaucoup de plaisir bien des valeurs. Alors, pour cette raison-là, nous, laïcs du diocèse de Bouta, tous les labels de CALCC, Conseil de l'apostolat des laïcs du Congo, nous disons non à cette façon d'agir. Nous disons non, non, non. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il faudrait organiser une marche de protestation contre cet acte-là. Notre mandat est en train de faire pression aux autorités politico-administratives de la province de pouvoir bien garder ou sécuriser les paisibles citoyens en général et à forte raison des invités de marque ou des visiteurs de marque comme son Excellence Monseigneur.
Et puis, cette nouvelle en plus bref, le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bandundu est aux arrêts depuis mercredi dernier. Marc Mutombo est détenu au cachot du parquet général à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Information confirmée par son avocat qui dit attendre le début de l'instruction du dossier pour connaître les faits mis à charge de son client. Il affirme qu'un mandat d'amener avait été lancé contre lui et il faut qu'il soit entendu. Il est en détention, a confié à la presse maître Désiré Eminga. En attendant, certaines sources judiciaires annoncent que le directeur général de l'ISP Bandundu serait poursuivi pour détournement de deniers publics et injures publiques. La plainte aurait été déposée par un enseignant de cette institution d'enseignement supérieur. Dans la province du Maniema, 20 femmes souffrant de fistules obstétricales ont été opérées et réparées la semaine dernière à l'hôpital général de référence de Kindu avec l'appui de l'UNFPA. Dans une interview accordée à Radio Kapi hier mercredi, le médecin directeur de cet hôpital s'est dit soulagé d'avoir atteint l'objectif fixé pour l'année 2021, celui d'opérer 50 femmes. Docteur Djunga Tukunda Michel s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Elles sont opérées au nombre de 20, tout simplement pour compléter les gaps qui manquaient par rapport à l'objectif fixé au courant de l'année 2021. Donc, l'hôpital était censé opérer 50 cas, et on avait déjà opéré 30, il nous reste 20. Donc, nous venons de terminer, et nous venons d'atteindre l'objectif fixé. Cela en routine avec l'appui de l'INFPA. L'équipe est locale, donc le médecin de l'hôpital général qui ont été formés sous l'appui de l'INFPA à Bukavu, M. Dr Mukwege, quand même l'équipe a répondu présente au rendez-vous, ils ont terminé tous les cas prévus. 50 prévus, 50 opérés, c'est une satisfaction totale. Nous remercions d'abord les partenaires INFPA qui nous a accompagnés, et les équipes qui ont opéré, et les malades qui nous ont fait aussi confiance. Par rapport à l'année 2022, nous projetons opérer 100. Et cela dépendra des moyens qui nous seront disponibles. Surtout, l'accompagnement en médicaments comme le fait une FIA et la petite motivation pour l'équipe. Tout simplement pour augmenter la marge des dames qui doivent bénéficier des soins.
Et puis, vous le savez, Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshishuku, évêque émérite, est décédé hier ici à Kinshasa à l'âge de 88 ans. La RDC Le Monde a donc perdu un savant et un pasteur. Ces paroles sont du Monseigneur Sylvain Lunyanyankole, président provincial du Synode de Kassa Oriental et évêque de l'Église du Christ au Congo. Il a rendu ce témoignage de l'illustre disparu hier à Radio Kapi, quelques heures après l'annonce de sa disparition. On écoute Monseigneur Sylvain Lunyanyankole au micro d'Esther Ndalafina.
Un homme de l'Église, mais aussi un homme de science. Tshibangu Tshishuku a dirigé le diocèse de Mbujimayi avec brio. Il est l'auteur de beaucoup de paroisses sous son règne que le diocèse a atteint son apogée. Homme de science, le recteur magnifique, le président du conseil d'administration des universités en République démocratique du Congo, Tshibangu Tshishuku, a innové. Il est l'un des ténors de la théologie africaine. C'est par Tshibangu Tshishuku et tant d'autres que l'Afrique a commencé à prendre conscience qu'on nous a volé l'héritage non africain, l'héritage africain qui se trouve dans la Bible. Vraiment, cet homme de science, un professeur de haute facture, je pense que l'Église vient de connaître un grand trou et le monde scientifique mêmement. S'il plaît à Dieu de tuer les larmes de l'Église, je présente mes condoléances à toute l'Église catholique, mais surtout à Monseigneur l'évêque Emmanuel Cassanda et tous ceux qui lui sont proches. Et le Seigneur le reçoit des larmes au nom de Jésus-Christ.
Rappelons que Monseigneur Tarsis Tshibangu est ordonné prêtre en 1959 au grand séminaire de Moba. Prélat de sa sainteté le pape Paul VI et vice-recteur de l'université Lovanium, il devient évêque auxiliaire de Kinshasa en 1970. Recteur de l'université Lovanium de 1967 à 1971, il est recteur de l'université nationale du Zaïre de 1971 à 1981. Et depuis président du conseil d'administration des universités de l'ex-Zaïre. Il a aussi travaillé comme évêque de Mbujimayi de 1992 à 2009. Paix à ton âme, maître.
Actualité internationale.
Le gouvernement
maliens accusent l'ONG MED, le gouvernement camerounais, toutes mes excuses, accusent l'ONG Médecins Sans Frontières d'avoir aidé des séparatistes au Cameroun anglophone dans la province du Sud-Ouest. Des accusations rejetées par l'ONG qui assure avoir suivi le même protocole que d'habitude. Les autorités affirment qu'une ambulance de l'organisation a pris en charge un chef milicien sans les avertir. Selon le communiqué du ministère de la Défense camerounais publié lundi, cet homme connu sous le nom de Guerre, général Moving Star, avait en sa possession une fausse fiche d'évacuation montée de toutes pièces avec la couverture des responsables locaux de MSF. La preuve pour le ministère de relations étroites avec les terroristes. Médecins Sans Frontières affirme avoir informé les autorités militaires locales comme convenu et régulièrement appliqué.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Maître Patience Kavira Sinamouli. Elle est donc le point focal du collectif des associations féminines pour le développement CAFED en ville de Béni. Avec elle, elle nous parle donc du déroulement des activités des associations féminines en ville de Béni durant l'année 2021. Elle s'entretient ici avec Marc Marofimbo. Suivez.
Madame Patience Sinamouli, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Au sein du collectif des associations féminines pour le développement, dont vous êtes point focal, comment les activités se sont déroulées en l'année 2021?
En fait, l'année 2021 n'a pas été facile, compte tenu des différents contextes que nous traversons. Qu'à faire de la ville de Béni, nous avons fait ce que nous devrions faire, bien que les difficultés ont été multiples. Mais nous avons tenté de faire ce que nous pourrions. Nous avons sensibilisé les différentes couches de la société, plus particulièrement les femmes et les filles, par rapport à la restauration de la paix, à l'autonomisation, à l'autoprise à charge, et aussi à leur demander de s'impliquer pour la participation et la consolidation de la paix. Nous avons atteint les couches que nous devrions atteindre, mais malheureusement, nous devrions aller plus loin. Et nous avons été limités par certains défis, notamment la sécurité. Et aussi, les moyens nous ont aussi limités. Donc, bref, à Ville de Béni, les femmes sont braves. Ça, vraiment, je dois reconnaître. Parce que c'est du café, les femmes leaders qui œuvrent dans le café sont vraiment braves. Parce qu'il faut tirer même sans rien, même sans frais de transport. Mais elles s'y donnent pour que les messages passent. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous avons travaillé au cours de l'année passée.
Loin des contextes sécuritaires ainsi que financiers, quels ont été aussi d'autres défis auxquels vous, CAFED, vous avez fait face?
En fait, le défi majeur, c'est que la plupart des femmes vivent dans le désespoir maintenant. Une fois voulu parler de quelque chose, elles ont vraiment la peur du lendemain parce qu'elles ne peuvent plus accéder librement à leurs activités. Et quand vous leur parlez qu'il y a encore espoir, elles se demandent d'où viendra cet espoir-là, en fait. Donc elles sont démoralisées, elles sont traumatisées, parce que la femme de Béni vit sous une émotion, malheureusement trop négative, parce qu'elle ne sait plus sur quel ça se vouait. C'est un grand défi, parce qu'il y en a celles-là qui ne voulaient même pas participer aux différentes activités, parce qu'elles se disaient même si on participait à ces activités-là, qu'est-ce que ça va nous donner, ça aura quel rendement. Mais aussi, il y en a de celles-là avec qui nous avons sensibilisé, celles-là qui nous avons sensibilisé, mais nous avons été limités par les moyens, parce qu'elles manifestaient une bonne volonté d'apprendre quelque chose, mais elles ne savent pas par où commencer. Normalement, c'est nous qui devrions leur doter de quelques moyens, mais nous aussi, nous n'avions que les bagages intellectuels à faire. Donc, c'est aussi une grande difficulté que nous rencontrons.
Oui, si on peut parler des partenariats que vous avez développés, lesquels ont porté de fruits?
Par rapport au partenariat, je dirais que 2021, contrairement aux autres années, 2021 vraiment était tellement difficile parce que nous n'avons eu aucun partenariat qui nous a aidé à accompagner les femmes pour répondre au minimum de leurs besoins. Donc jusque-là, nous avons travaillé qu'avec les moyens de bord. Ce ne sont que les femmes leaders qui contribuaient, soit l'organisation au niveau provincial qui peut faire un petit geste pour encourager les femmes qui sont sur le terrain. Mais au niveau des partenaires, nous sommes en train de voir parce qu'il y en a de celles-là qui commencent à se manifester. Mais nous attendons. Si vraiment elles se manifestent, on pourra bien lancer les activités dans l'année qui commence parce que nous avons beaucoup de cibles. Il y en a les femmes policières qui réclament aussi pourquoi est-ce que nous n'atteignons pas leurs épouses, aussi les femmes policières, les femmes des militaires. Donc le travail est encore trop lourd et nous savons que l'année 2022 pourra peut-être nous redonner encore espoir, surtout qu'avec les opérations qui sont en train de se passer sur le terrain, l'effort que le gouvernement fournisse pour que la paix revienne, nous espérons qu'en 2022, peut-être que tout serait déjà en ordre pour que les activités soient bien lancées sur le terrain.
Et dans quelques matins seulement, nous allons tourner la page 2021. Vous pensez comment vous allez relancer au niveau du café des activités pour 2022?
2021 appartiendra au passé, mais nous aurons toujours des références par rapport à 2021 parce que nous avions beaucoup planifié à 2021 mais que nous n'avons pas si réalisé suite aux différents contextes que je venais tantôt de vous énumérer. Donc nous allons voir à 2022. Commencer par les activités que nous n'avons pas été en mesure de réaliser au cours de l'année 2021 pour que nous puissions relancer les activités en 2022. Donc en 2022, nous avons beaucoup planifié, même jusqu'au territoire, mais nous demandons la grâce divine pour que Dieu nous donne force et santé et surtout la sécurité pour que nous puissions atteindre les cibles que nous avons su proposer au niveau du territoire.
Madame Patience Sinamouli, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal de la mi-journée, mon dernier journal de l'année 2021 sur Radio Okapi. Merci à Alain Ngoï qui l'a mise en onde. Merci également à Élisée Tikota qui l'a coordonné. Et merci à vous pour nous avoir suivis. Bonne fête dans toutes vos familles et que le ciel continue à nous garder. Était donc à la présentation Jacques-Yves Molima, Aouta, Missoma Pumbadoua. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur Radio Okapi.